Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous proposons une émission exceptionnelle qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais à Nicolas Desroches, qui est journaliste, rescapé d'une mort subite suite à une maladie cardiaque rare et qui a partagé son histoire dans son livre intitulé « Cœur de titane », publié aux éditions Librinova. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, vous avez fait un arrêt cardiaque en octobre 2021 qui aurait pu très mal tourner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de cet événement ?
Oui, en fait, j'ai fait un arrêt cardiaque ou ce qu'on appelle aussi une mort subite rattrapée ou ressuscitée dans le jargon médical. Le samedi 2 octobre 2021, en plein entraînement de natation, alors je faisais pas un effort très violent. En fait, c'était tout au début de mon entraînement. En fait, j'ai nagé 250 mètres à peine. Et c'était dans un effort qui était pas forcément violent. Et je me suis senti, en fait, pas très très bien. Donc, j'ai juste eu le temps de sortir de l'eau, en fait. Et quand je suis sorti, je me suis effondré sur la margelle de la piscine. Et là, j'ai perdu directement connaissance. Je suis tombé en syncope. Et j'ai eu la chance, en fait, on ne sait pas qui se cache derrière le maillot de bain. Je savais que, bon, je nageais avec quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical, qui en fait est gynécologue, mais qui a fait son internat de médecine notamment, qui est passé dans les services de réanimation, et qui lui en fait avec deux maîtres nageurs et un médecin généraliste qui nageait, qui faisait sa petite nage du samedi matin, ils m'ont sauvé en fait, ils m'ont ramené à la vie en faisant les trois gestes importants, c'est-à-dire alerter les secours, masser ou en fait faire un massage cardiaque efficace, et utiliser un défibrillateur. Et j'étais ramené à la vie, enfin j'ai pas été ramené à la vie tout de suite parce que comme j'ai une maladie rare, enfin qui est rare mais quand même assez développée, j'ai une cardiomyopathie congénitale et une cardiomyopathie hypertrophique. Alors qui est dans mon cas en fait peu hypertrophique parce que mon myocarde est pas en épaississement mais qui est vraiment minime. Et j'ai été, comme j'ai un rythme cardiaque bizarre, on ne savait pas ce qui se passait, donc j'ai été mis dans le coma pendant 5 jours, parce que j'ai été pendant assez longtemps, en fait, sans oxygène, donc ils voulaient faire tous les tests, ils ne savaient pas comment j'allais me réveiller. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, parce qu'on pensait que j'allais me réveiller avec beaucoup plus de séquelles. Et au bout de 5 jours, je me suis réveillé sans séquelles. Et on m'a implanté un défibrillateur pour justement en cas de nouvel problème cardiaque, enfin de fibrillation ventriculaire, cet appareil en fait sera capable de me sauver en fait la vie.
Pourtant, vous étiez diagnostiqué d'une maladie rare suite à plusieurs accidents de ce type dans votre famille.
Mon cousin a fait une mort subite à l'âge de 15 ans en cours de sport, et ma mère a fait une mort subite à l'âge de 52 ans au travail, en arrivant à son travail. Ils n'ont pas pu être ramenés à la vie. C'est justement en fait comme c'est arrivé les deux, dans les deux cas en fait leur mort dans un lieu public, en fait il y a eu une autopsie, et c'est cette autopsie, même si c'était traumatisant en fait, mais qui a permis en fait de mettre un mot sur notre maladie. Et c'est là en fait où il y a une étude génétique qui a été faite par les équipes de l'hôpital de Lyon. C'était au début de la cardiogénétique en 2005, et on a découvert un gène, le MYH7, où je savais en fait que j'avais un risque de faire une mort subite et que j'étais porteur de cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est là où en fait j'ai su que j'étais malade. Donc après, comme j'étais dit asymptomatique, c'est-à-dire que j'avais la maladie en moi en fait avec ce marqueur génétique, mais la maladie n'était que très peu développée. Donc par précaution en fait, je prenais des bêta bloquants. Et j'allais en fait chez un cardiologue tous les ans, donc j'avais un contrôle. Après, on ne sait pas pourquoi, en fait, je suis parti aux fibrillations ventriculaires ce fameux samedi 2 octobre 2021 que j'ai fait cette mort subite rattrapée, mais j'étais suivi en fait pendant plus de 20 ans en fait dans ma pathologie.
Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous portez ?
Donc après ma mort subite rattrapée et les 5 jours de coma, quand je me suis réveillé, on m'a implanté un défibrillateur dans le torse. J'ai appris en fait à vivre avec ce défibrillateur, ce qui est pas forcément évident parce que parce que c'est un objet étranger qu'on vous implante. Au début, moi, je connaissais pas. En fait, je connaissais les pacemakers. Je ne savais pas qu'on implantait des défibrillateurs. Donc, il m'a fallu, en fait, digérer en fait cette pause de défibrillateur. Et puis, il m'a fallu m'habituer à cet objet qui fait un peu moins de 90 grammes dans le corps, qui est capable de me sauver la vie. Donc, ça a été toute une sorte de d'éducation, en fait. Et j'ai fait aussi, en fait, réappris avec un kiné à faire des mouvements, à savoir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire. Parce que comme je suis quelqu'un de très sportif, en fait, l'idée, c'était de me remettre en mouvement, mais sans prendre de danger et sans faire des mouvements déconseillés, en fait, quand on a un défibrillateur. Et donc, j'ai fait ça de manière accompagnée.
Alors, à la suite de cet événement, vous avez décidé d'écrire un livre pour raconter votre expérience qui s'appelle « Cœur de titane ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ?
Au départ, cette démarche, ça a été une démarche pour évacuer le traumatisme que j'avais vécu. Parce que quand vous êtes rattrapé d'une mort subite, en fait, quand on vous dit ce que vous avez fait, vous retenez un mot, en fait, vous retenez le mot « mort ». Vous rendez compte que vous avez failli mourir et vous retenez pas les deux autres mots. Et en fait, c'est sous les conseils d'une psychologue qui m'a dit votre métier, en fait, vous êtes journaliste, c'est d'écrire. Vous écrivez les histoires des autres, mais là, en fait, ce serait bien d'écrire votre histoire. Donc, j'ai commencé à écrire. Au début, c'était une démarche qui était plutôt personnelle et j'avais du mal à verbaliser sans en fait m'effondrer et être submergé par l'émotion. Et je faisais lire en fait ce que j'avais écrit, ce que à des amis. Et c'est un ami qui est journaliste à Paris qui m'a dit que ce récit, en fait, ce retour en apnée à la vie, en fait, méritait d'être publié parce que lui, en fait, il a appris beaucoup de choses. Il savait pas, en fait, que les morts subites c'était aussi fréquent. Il pensait que les maladies cardiaques, comme souvent, en fait, c'était réservé à des personnes âgées et que il ne savait pas aussi qu'on pouvait vivre avec un défibrillateur. Et cette nouvelle vie, et c'est ce que j'ai voulu raconter, parce que je me suis dit que ce récit, en fait, moi, m'a aidé à me reconstruire et pouvait aider d'autres personnes à se reconstruire. Et ça pouvait aussi, en fait, être un moyen de sensibiliser plus largement, en fait, aux gestes qui sauvent et à ces gestes qui m'ont sauvé. Parce qu'aujourd'hui, je considère que j'ai une dette envers la vie. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont ramené à la vie parce que eux, ils savaient faire. Et qu'aujourd'hui, en fait, la médiatisation que je peux avoir au travers de ce livre, et de l'interview, par exemple, que je fais aujourd'hui, en fait, ça permet de sensibiliser le plus de personnes possible aux gestes qui sauvent, parce qu'on a encore en France trop de personnes qui ne savent pas faire des massages cardiaques. Et moi, j'ai été choqué, en fait, en apprenant. Alors après, les chiffres, il n'y a pas une comptabilité exacte, mais on aurait entre 50 à 60 000 personnes qui font des arrêts cardiaques en France par an, et on arrive à en récupérer sans séquelles que 2%, et on pourra en récupérer beaucoup plus. Alors après, on ne pourra pas sauver forcément tout le monde, mais on pourra en récupérer beaucoup plus si on savait faire un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur, alors que c'est pas compliqué, mais dans l'imaginaire encore, ça reste un outil qui peut faire peur, alors qu'il suffit de mettre des électrodes, on appuie sur le bouton et la machine, elle parle, et après, elle fait l'autodiagnostic et elle se met en route toute seule.
Alors Nicolas, vous intervenez également au sein des services hospitaliers auprès d'autres patients au cours de programmes d'éducation thérapeutique ou ETP. Pourquoi ce choix et quel est le bénéfice pour les patients qui y assistent ?
J'ai été effectivement formé à l'éducation thérapeutique du patient avec la Fédération de cardiologie et la filière cardiogène qui regroupe les maladies rares cardiaques. Il y a 2 ans, en fait, j'ai fait partie des premières personnes formées en ETP dans la cardiologie par la filière cardiogène. Et cette démarche, en fait, c'est moi, j'ai pas fait de l'éducation thérapeutique dans mon processus de soins, mais j'ai fait de l'éducation thérapeutique sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. J'ai en fait fait de l'éducation thérapeutique déjà par rapport à mon livre, en fait, parce que c'était un exercice, l'écriture, en fait, c'était un exercice pour permettre d'aller mieux. Et après, en fait, j'ai fait ce cheminement, en fait, qu'on a et vers lequel, en fait, l'éducation thérapeutique amène, ça aide les patients à être acteurs de leur pathologie, à plus la subir, mais à vivre avec. Et ça apprend, en fait, un processus qui est, en fait, de faire le deuil de sa bonne santé. Et quand on a quand on vous annonce, en fait, une maladie, quelle qu'elle soit, en fait, souvent, vous avez au départ, en fait, différents stades. Vous avez un stade où vous allez être dans la révolte, vous allez être un stade où vous allez être dans le déni. Après, vous allez avoir un stade où vous allez être dans le marchandage, c'est-à-dire que vous allez plus vouloir vos soins, vous allez peut-être plus vouloir le suivi médical en fait que cette maladie vous impose. Et après, vous avez le dernier stade qui est l'acceptation. Et moi, en fait, j'ai été dans ce stade d'acceptation et l'éducation thérapeutique, notamment pour le défibrillateur, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai mis du temps en fait à intérioriser et à accepter le défibrillateur. Et vous avez des outils, par exemple un outil qui s'appelle Déficoeur, qui a été fait par des patients qui sont porteurs de dispositifs électrocardiaques, où en fait on a recensé toutes les questions en fait qui pouvaient se poser sur leur défibrillateur. C'est-à-dire la crainte principale en fait des gens qui ont un défibrillateur, c'est savoir quand il va choquer, quelle interaction il faut que je fasse attention, est-ce que je peux encore passer mon taillet, est-ce que je peux voyager au boulot, quelles sont les contre-indications ou pas. Et donc du coup toutes ces questions en fait ont été répondues en fait par des cardiologues, et quand ils savaient pas en fait c'est carrément les constructeurs en fait de dispositifs électrocardiaques qui ont répondu. Et c'est un jeu qui ressemble en fait à un trivial poursuite, où vous avez cinq thématiques, c'est-à-dire comment est implanté un défibrillateur, à quoi sert un défibrillateur, vous avez le défibrillateur dans le quotidien, c'est-à-dire dans les loisirs, et vous avez plein de questions en fait, et en jouant en fait vous apprenez plein de choses sur votre défibrillateur. Et c'est aussi un moyen en fait, l'éducation thérapeutique en fait, où vous avez à la fois des médecins, des infirmiers et des patients en fait qui sont un peu pairs, formés, c'est d'aider en fait les patients à cheminer en fait vers l'acceptation de leur maladie et à mieux vivre avec et à continuer à vivre, parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont des maladies cardiaques ou qui sont en fait rattrapées d'une mort subite, qui s'empêchent de vivre ou qui ont peur. Et l'idée, c'est d'enlever toutes ces appréhensions et de permettre en fait d'être acteurs de leur maladie. Et quand ils sont acteurs de leur maladie, c'est d'autant mieux parce que vous prenez mieux vos médicaments, vous êtes mieux informé des signes de votre maladie, vous pouvez être mieux informé en fait des différents symptômes que vous pouvez voir en fait, et du coup ça vous permet en fait d'anticiper et d'être mieux pris en charge.
Alors vous l'avez dit, vous souhaitez médiatiser votre histoire, vous avez même été sélectionné pour porter la flamme olympique. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers toutes vos actions ?
Oui, en fait, j'ai été sélectionné. Alors, pour l'anecdote, la flamme olympique, c'est aussi important parce que moi, en fait, je fais beaucoup de sport et encore, c'est compliqué, en fait, encore aujourd'hui, même si ça l'est de moins en moins, en fait, pour des cardiaques, de faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de contre-indications qui peuvent être ou de freins à lever. En fait, c'est des fois compliqué d'avoir un certificat d'aptitude à la pratique sportive, ce qui peut se comprendre parce que en fait le monde médical a pas forcément envie de prendre le risque parce que ça les engage. Après, il peut avoir aussi aux États-Unis en fait vous faites du sport par vous-même et ça vous engage que vous-même, alors que en France vous avez un système qui peut engager les médecins, et ils ont aussi des risques de, ils peuvent avoir le risque de poursuite judiciaire, mais c'est aussi important en fait de faire du sport. Et c'est pour ça que dans toutes ces démarches, et notamment la démarche de la flamme olympique, ça a montré que j'ai pas couru beaucoup, j'ai couru 200 mètres, mais ça a montré que vous pouvez être cardiaque, et ça a montré aussi l'image des cardiaques qui sont pas les maladies cardiaques, c'est pas réservé qu'à des personnes âgées. Et ça permettait de sensibiliser, en fait, et de montrer que vous pouvez avoir un défibrillateur, un pacemaker, et vivre normalement, avoir une vie qui correspond à quelqu'un de votre âge. Et ça permet aussi de sensibiliser aux gestes qui sauvent et de rendre visible, en fait, ces maladies dont on parle pas, en fait, quand on parle du handicap. Il faut savoir qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et quand on parle du handicap, malheureusement, en fait, on voit souvent des gens qui sont atteints encore dans leur motricité, dans leur sens, que ce soit la vue ou l'ouïe. Et c'est aussi important de montrer que vous avez tout un panel d'handicaps et des maladies cardiaques en font partie, dont on parle pas, mais il faut en parler parce que ça fait beaucoup de drames. Il y a beaucoup de gens qui meurent en fait de maladies cardiaques, mais on n'en parle pas.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir partagé avec nous votre histoire et les raisons pour lesquelles vous avez choisi de la publier dans votre livre « Cœur de Titane ». Nous espérons que cet épisode spécial vous a plu. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare. À très vite.